Bonjour à chacun et à chacune. Ça fait du bien de vous voir de face. Et si vous en avez marre de voir quelqu'un que de dos, ben, tournez-vous et regardez-le face. C'est quand même drôlement mieux, quoi. Vraiment, ce matin, le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur veut visiter les lieux de nos défaites ce matin. Il veut visiter les lieux de nos peurs ce matin. Il veut soulever le tapis et disperser les poussières en dehors de la maison. Et ce matin, j'avais vraiment une parole. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Et je crois que tout ce culte nous oriente vers une demande au Seigneur de nous donner de la hardiesse. Est rempli de commandements. Je n'ai pas partagé cette pensée dimanche dernier, mais elle était présente et je me suis retenu. Je me suis dit, Seigneur, c'est d'abord pour moi. Pendant que nous louons le Seigneur, nous prions, j'étais dimanche dernier, ça fait 3 dimanches que je n'ai pas pris la parole, n'est-ce pas, vraiment? Elle me fait signe comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'elle veut m'encourager en disant, c'est bien, ne parle pas tout le temps. Donc la prochaine fois que je vais prêcher, c'est dans 1 mois, après aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est important d'être dans les rangs, de s'asseoir, d'écouter. Alors je reviens à cette pensée, mais qui est encore là aujourd'hui, qui est revenue. Comme si le Seigneur me disait, tu vois, en fait, le monde n'a pas besoin de tes commentaires sur tous les sujets. On n'a pas besoin de tes commentaires sur tous tes sujets. Et je crois que nous sommes pris dans une sorte de machine à commentaires à longueur de journée, bassinée par les chaînes info et incidemment, nous avons été reconfigurés à commenter à longueur de journée les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Nous sommes des commentateurs. Le Seigneur me disait, vois-tu, ça ne change rien. Il commente, il commente, il commente. Mais vous, vous avez reçu la parole efficace de Dieu. Celle qui change quelque chose dans nos vies. Le monde a cruellement besoin d'hommes et de femmes qui ne se laissent pas intimider, réduits au silence, parce qu'ils ont reçu une parole dont le monde a besoin. Et l'évangile n'est pas un commentaire. Et la parole de Dieu n'est pas un commentaire. C'est la proclamation de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas une histoire au sens où il était une fois. C'est la grande histoire du grand Dieu de l'univers qui est venu en Christ à la croix mener un combat. Et il a gagné comme nous l'avons chanté. Et ce matin, à travers le message de l'Église persécutée, il va venir nous dire, prends. Il va visiter tes lieux de défaite. Et dans ces lieux de défaite même, il va te dire qu'il est capable d'avoir la victoire. Amen. Je reprendrai la parole dans 3 minutes, juste après cette petite vidéo qui campe le thème de ce dimanche dédié à l'Église persécutée. Ce matin, en venant ici, peut-être n'aviez-vous pas la boule au ventre en disant « je risque ma vie ». Il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés pour louer le Seigneur et prier ici dans une grande liberté. Mesurons-nous seulement la grâce et le privilège qui nous est fait de pouvoir exercer sans la peur au ventre notre culte, de pouvoir nous réunir en oubliant même que le fanatisme religieux il y a 10 ans, par exemple au Bataclan, on en parle ces derniers temps, a fait des dégâts. Et pour nous, c'est déjà une histoire lointaine. Mais pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu l'effraction d'un certain fanatisme religieux, au nom d'une fausse idée de Dieu, au nom d'une fausse représentation de Dieu, et bien pour eux, ce n'est pas du passé. Et pour plus de 380 millions d'êtres humains, simplement parce qu'ils sont chrétiens, cette liberté fondamentale est déniée. Cette liberté fondamentale est le lieu même des discriminations qui leur sont affligées. Leur vie qui valent tout autant que les nôtres leur sont confisquées. Et pour beaucoup, ce sont nos frères et sœurs en Christ, quelle que soit leur dénomination. Et ce dimanche leur est particulièrement dédié dans le cadre de la mission Portes Ouvertes, dimanche de l'Église persécutée. Et il nous envoie un message d'espérance et un message de confiance. Méditant toute la route de l'épreuve et de la souffrance, il nous propose cette parole et ce thème jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Cette borne 70 rappelle ces 70 ans d'engagement de la mission Portes Ouvertes aux côtés de ces chrétiens privés de communauté, de soutien. Et jusqu'ici, Dieu a été fidèle pour eux. Et peut-être chacun de nous, si nous regardons un peu dans le rétroviseur, pouvons reconnaître aussi la fidélité de Dieu à travers les chemins difficiles par lesquels nos vies, nos itinéraires de vie sont passés. Les chrétiens de l'Église de l'Ombre nous invitent à lire un texte ce matin qui va nous présenter un épisode, un énième épisode de l'histoire d'Israël. Et cet épisode va nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Et j'aimerais modestement m'inscrire dans la fidélité de la trame qui nous a été proposée par Portes Ouvertes pour porter leur message, avec leurs mots, mais également avec mon souffle et ma coloration à moi. Que montrent les histoires bibliques de la manière dont Dieu prend soin de son peuple? Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves? Le récit que nous allons lire nous raconte comment le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, vient à nouveau au secours de son peuple après plusieurs cycles de désobéissance, de chute, de repentance. Il intervient. Nous lisons dans vos Bibles 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 17. Les hommes de Kiriat Yarim vinrent et firent monter le coffre du Seigneur. Ils l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent Éléazar, son fils, pour garder le coffre du Seigneur. Il s'était passé bien des jours, 20 ans, depuis le jour où le coffre avait été installé à Kiriat Yarim. Alors toute la maison d'Israël se mit à gémir devant le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, supprimez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. » Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Les Israélites supprimèrent donc les Baals et les Astartés et ils servirent le Seigneur seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël au Mitzpah. Je prierai le Seigneur pour vous. Ils se rassemblèrent au Mitzpah, puisèrent de l'eau et le répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent en ce jour-là. Et c'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre le Seigneur. Samuel était juge des Israélites au Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés au Mitzpah et les princes de la confédération des Philistins partirent à l'attaque d'Israël. Les Israélites l'apprirent et ils eurent peur des Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, ne garde pas le silence. Crie pour nous vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lin et l'offrit tout entier en holocauste au Seigneur. Il cria vers le Seigneur pour Israël et le Seigneur lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. Ce jour-là, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit sur les Philistins et les frappa de panique. Ils furent battus par Israël. Les hommes d'Israël sortirent du Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betzka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre le Mitzpah et la dent et il l'appela du nom d'Ébénézer. Pierre du secours, en disant, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les délivra de la main des Philistins et eut la paix entre Israël et les Amorites. Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie. Il allait d'année en année faire un circuit à Bethel, le Gilgal, le Mitzpah. Il était juge d'Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Là aussi, il était juge d'Israël. Il bâtit là un autel pour le Seigneur. Amen. Nous allons considérer trois mouvements dans ce texte. Dans un premier temps, nous allons voir que se répète un cycle qui est bien connu dans le livre des Juges dont il a été fait mention, compris pendant nos temps de louange et de prière. Des temps d'oppression et de confusion spirituelle. Et en deuxième lieu, la nécessité d'un retour sincère à Dieu, c'est-à-dire la repentance. Et enfin, nous allons essayer de comprendre aussi ce geste de mémoire, cette pierre qui a été posée. L'histoire que nous venons de lire se déroule dans un contexte difficile de l'histoire d'Israël. Et comme nous le voyons souvent dans le livre des Juges, on peut observer un cycle qui se répète, un contexte spirituel troublé, qui entraîne le peuple dans une crise spirituelle qui va se manifester par l'idolâtrie. On peut mettre la slide suivante déjà. Et puis, le peuple crie au Seigneur et il suscite un homme ou une femme qui était appelé les juges. Un homme ici, c'est Samuel, Déborah pour le côté ou la femme qu'elle fut. Et à travers cet instrument, Dieu redonne force à son peuple, et Dieu appelle son peuple à la repentance, et le peuple se repent, et Dieu intervient et le délivre de l'oppression. Nous sommes donc dans ce temps où le peuple de Dieu s'était détourné de lui pour adorer les dieux étrangers. Et ce détour du Dieu d'Israël, le Dieu qui demande d'être servi et adoré lui seul, le Dieu qui ne partage pas sa souveraineté avec d'autres dieux, le Dieu qui ne se confond pas à des créatures taillées dans les pierres, dans du bois, par des mains d'hommes et de femmes, qui ainsi montrent d'ailleurs qu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme créateur au point de se créer des divinités et de se prosterner devant elles. Quelle folie! Et quelle subversion de l'idée même de Dieu. Moi, je vais créer mon Dieu, ma divinité. Et ensuite, je viens me prosterner devant cette divinité que moi-même j'ai créée. Quelle subversion, quelle folie, quel aveuglement spirituel. L'idolâtrie est le symptôme d'une mauvaise compréhension de Dieu et d'une mauvaise compréhension de l'alliance que Dieu a lié avec nous. Et Israël a eu besoin dans son cheminement d'apprendre à demeurer dans l'alliance de Dieu. Et chaque fois que ce peuple de Dieu est sorti de l'alliance, du cadre de l'alliance, la bénédiction qui était attachée à l'alliance ne l'a pas accompagné, comme on le voit d'ailleurs dans la fin du livre du Deutéronome, du code de l'alliance. C'est dans le cadre de l'alliance que Dieu veut déployer sur nous ses bénédictions. En dehors de l'alliance, nous nous mettons sous la malédiction. Et Israël a eu un peu fétichiste d'une certaine façon à cette alliance. Pendant le désert, le coffre de l'alliance les avait accompagnés. Il symbolisait la présence de Dieu et au-dessus du couvercle, il y avait donc ces chérubins. Et à l'intérieur, il y avait gardé le souvenir des paroles de Dieu. Et ils ont pensé pendant longtemps que le simple fait d'avoir le coffre de l'alliance avec eux était une protection suffisante. Comme s'ils avaient fait de la domestication de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme ces personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont des petits bonhommes dodus dans leur maison avec des gros ventres, des grosses joues. Ça commence par un B, quelque chose comme ça. Ça finit par un A. C'est un peu du lot du boudin, ça. Ou alors, vous savez, ces personnes qui ont des pierres, qu'on leur vend comme étant des pierres qui vont harmoniser le feng shui, l'énergie, ou que sais-je encore. Autant mieux aller ramasser quelques cailloux, hein, je vous dis tout de suite, et de ne pas dépenser un sou, parce que tout ça... Moi, je peux vous dire d'où je viens, j'ai vu la magie. Pas les blagues dont on parle là. Moi, j'ai vu la magie. J'ai des blindages sur mon cœur. Parce que j'ai grandi dans un pays où on vous blinde même malgré vous. Parce qu'il y a des gens... J'ai vu la magie. Elle existe aussi en Europe, hein, ce qu'on dit souvent la magie noire. Mais ce que je vais dénoncer là, il y a une autre magie. Un avatar de la magie s'appelle la superstition. Et la superstition est une porte à la magie, au spiritisme. C'est un fonds de commerce juteux. Je suis étonné du nombre de personnes qui s'enrichissent au téléphone. Au téléphone! Allô, oui, bonjour. C'est Martine? Non, c'est Françoise. Ah ben oui, je savais que ça commence par un F. Oui, Françoise, dites-moi, vous voulez savoir s'il va se remettre avec vous? Oui, c'est ça. Ah oui, ça va se faire dans 3 mois, mais je ne propose pas le service après-vente. Hein. Ah ben, on a dépassé 10 minutes, désolé, 50 euros. Ça ne se passe pas loin. Ça se passe là. Et on peut être dans une église et ne pas comprendre ça. Et les chrétiens de l'église persécutée nous invitent à prendre au sérieux la parole du Seigneur. Quand Israël a oublié que le coffre de l'Alliance n'était pas juste un coffre d'ornement, mais devait les rappeler constamment les paroles que nous nous sommes rappelées ce matin. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Mais un héros vivant, un héros qui veut une relation avec toi, un héros qui garde l'Alliance, il est le gardien de l'Alliance. Et Israël avait la vocation d'être également le gardien de l'Alliance. Mais une alliance vivante, une alliance dans l'obéissance, et non pas le fétichisme qui consiste à croire que parce que j'ai mis un crucifix dans ma maison, Dieu veille sur moi. En ce moment, nous cherchons une maison et nous avons visité une maison. Et quand on regardait les photos, dans toutes les pièces, il y a un crucifix. Et donc, quand on a rencontré les propriétaires, j'ai vu un Saint-Joseph avec Jésus dans la maison, dans les mains et tout. Mais moi, je dis, ma maman est catholique. Mais moi, je suis protestant, pasteur. Et on a vu que vous avez des croix de partout. Vous êtes chrétien. Puis ils disent, mais la maison ne se vend pas. Donc, on a fait une neuvaine à Saint-Joseph pour vendre la maison. J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas exaucer Saint-Joseph. Hein. Je n'achète pas non plus. Parce que si j'achète, ils vont croire que c'est Saint-Joseph. La superstition est partout. Et on peut suivre Christ et ne pas être enseigné sur ces choses. Comment c'est possible? Des bracelets qu'on vous met dans la main, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a fait dessus. Le Seigneur dit à Israël, non, je ne suis pas ce Dieu-là. Et Israël croyait tellement que ça suffisait qu'au chapitre 4, le chapitre précédent, le chapitre 7, hein, au chapitre 4, à Ébénézer, quelque chose qui s'est passé, petite ville Ébénézer. Israël a sorti le coffre de l'Alliance. Ils se sont mis à chanter comme on a chanté ce matin. À chanter. Et les Philistins ont entendu un bruit, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont su que le coffre de l'Alliance était sorti au milieu du camp. Et ils se sont dit, un Dieu est venu dans ce camp. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Il a dit, c'est le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte qui est revenu. Là, nous sommes foutus. Et quelqu'un s'est levé au milieu des Philistins, il a dit la parole que les Israélites auraient dû entendre. Soyez des hommes, soyez des hommes. Et les Philistins ne se sont pas dégonflés. Et la Bible nous dit qu'ils ont donné une défaite mémorable à Israël. Alors qu'ils avaient le coffre, ils les ont vaincus et même ils ont pris le coffre de l'Alliance et l'ont confisqué. Élie, le grand prêtre, quand il a su cette nouvelle, il a appris que des malheurs de ses deux fils, Ophné et Phinéas, sont morts dans cette affaire. Des milliers de fantassins sont morts. La Bible nous dit que 30 000 fantassins sont morts ce jour-là. Le fétiche du coffre de l'Alliance n'a pas opéré. Et quand Élie a su que ses fils sont morts, ce n'est pas ça qui l'a tué. Le texte dit que quand il a appris, quand ses fils sont morts, il n'est pas tombé. Mais quand il a appris que le coffre de l'Alliance était parti, et de tout son poids, il s'est rompu la nuque. Parce que pour lui, le coffre de l'Alliance n'était pas juste un bijou hein, de famille. C'était le symbole même de la présence du Seigneur. Comme si vous levez le matin, l'arc de triomphe a disparu. On l'a pris, on l'a déboulonné, on l'a amené. Et sa belle-fille qui était là a appris que son mari était mort aussi dans cette affaire. Et comme elle était à terme, tout de suite elle a accouché, prise de douleur de l'enfantement. Malheureusement, elle est décédée en couche. C'est une histoire avec des malheurs. Et quand on lui a dit comment, elle lui a dit que c'est un garçon, ne t'inquiète pas, un garçon. Elle a dit, il s'appellera Ikavod. Ikavod. La gloire est finie, la gloire est partie. Mes amis, on peut marcher avec le Seigneur et ne pas encore être délivré de la superstition, de la pensée magique. On peut entretenir avec lui une relation qui n'est pas une juste relation d'alliance. Parce que l'alliance implique de se débarrasser de la mentalité magique. L'alliance implique de se débarrasser de la mentalité de la superstition. L'alliance implique l'obéissance. Un jour, j'ai dit à mes parents, c'est fini les blindages. C'est fini les lavements chez le marabout. C'est fini. Et un charlatan est venu pour nous tester. Il est venu pour prier pour ma sœur, Evelyne. Je suis allé dans la chambre à côté. Et visiblement, publiquement, j'ai dit à ma maman, moi je m'en vais prier pendant que lui fait son travail. Il est ressorti de là en disant qu'il ne pouvait pas travailler. Qu'il y avait quelqu'un qui l'empêchait de travailler. C'était pour moi. C'était Jésus. Le monde n'a pas besoin de commentateurs. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Qui dressent un mur. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Il voit la dérive de son peuple. Et il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui bâtisse le mur, et je n'en trouve pas. Ça ne nous rappelle pas quelque chose quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre? Il n'a pas commencé par là, il a cherché un homme. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays européens? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Église du Christ, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Est-ce que nous sommes à la brèche? Est-ce que nous dressons les murs? Ou nous passons notre temps à commenter toutes les décisions que l'Europe prend, toute la déconstruction du judéo-christianisme? Où est-ce que Dieu nous trouve à genoux? Où est-ce que Dieu nous trouve debout? Où est-ce que Dieu nous trouve dans notre parole? Où est-ce que nous nous taisons pour échapper à la persécution? Est-ce que nous adoptons des stratégies d'évitement des sujets clivants pour échapper à la persécution, au rejet? Dieu, encore aujourd'hui, un peuple qui se lève comme un seul homme. Et nos frères et sœurs de l'Église persécutée n'ont pas le luxe de faire des feintes. Et leur vie vaut autant que la nôtre. Et Jésus est mort pour eux comme pour nous. Et ils ont besoin que nous soyons, nous aussi, une église forte. Non pas une église qui prend le pouvoir, mais une église forte qui témoigne. Ce n'est pas sa vocation de prendre l'Élysée, mais une église forte qui annonce l'évangile, qui change les cœurs et qui transforme des vies. Et peut-être que nous aussi, ce matin, nous sommes appelés à demander pardon à Dieu, comme le peuple d'Israël. Et quand ils ont compris cela, ils sont entrés dans une démarche de repentance sincère. Et je veux me repentir aussi, Seigneur, parce que je ne suis pas assez sur la brèche. Oui, parce que parfois j'esquive certains combats. Oui, parce que parfois je me défile, je me dégonfle. Parfois je m'associe malgré moi au ricanement de notre monde qui tourne en dérision Jésus. Pas mon silence coupable, pas ma timidité. Oui, bien des défaites sur le terrain du témoignage, j'ai vu aussi. Mais ce qui est formidable avec cette histoire, c'est que quand le peuple revient, deuxième partie, slide s'il te plaît, la nécessité d'un retour sincère à Dieu. Je crois que l'Église du Christ a besoin de ça. Je crois que si Dieu nous épargne les persécutions aussi intenses, c'est parce que je crois que si on les subissait, on n'est pas préparé mentalement. Alors l'Écriture, le point d'interrogation de Jésus, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Je pense qu'avant qu'il ne revienne, la réponse sera déjà là, tellement on serait réduit à peu de choses. Parce que nous avons tellement été confortés, tellement été sécurisés, tellement été assimilés, intégrés complètement à la manière de voir de nos peuples. Nous n'osons plus être une société autre, alternative. Nous n'osons plus assumer la tension du déjà et du pas encore. Si c'est de tout votre cœur, dit Samuel, que vous revenez à l'Éternel, dont le Seigneur a besoin d'un cœur qui revient à lui et il est toujours prêt à l'accueillir. Il ne nous juge pas, il ne fait pas de reproches et Samuel non plus ne le fait pas. Il demande simplement, est-ce que c'est de tout ton cœur que tu veux me suivre pour qui je suis ou est-ce que tu veux me suivre simplement parce que je te bénis? Si tu veux me suivre simplement parce que je te bénis, tu ne connais pas encore le Dieu de l'Alliance. En tout cas, c'est une déformation du Dieu de l'Alliance. Il veut être suivi parce qu'il est Seigneur, pour qui il est. Et ça appelle une réponse. Et quelle sera ta réponse? Je prie que ta réponse, ma réponse, soit éclairée par l'exemple d'Israël ici. Ils dirent à Samuel, au verset 8 à 9 du chapitre 7, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Salut immédiat, mais déjà préfiguratif du salut total. Samuel prit un agneau de lait, qui pour nous est déjà une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour la victoire de Dieu et de son amour dans notre humanité. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Les hommes et les femmes de l'Église persécutée, nous l'avons entendu, Kamala ou le pasteur Omar, dans le chaudron de la persécution, leurs yeux s'ouvrent sur la présence de Dieu. Et ça me rappelle toujours Étienne. Alors qu'il reçoit les cailloux, ses yeux s'ouvrent et il dit, je vois le Seigneur Jésus debout devant le trône. Et ses frères et ses sœurs de l'ombre ont les yeux ouverts sur le Seigneur. Et je prie que nous aussi, dans les difficultés que nous avons à affronter, que le Seigneur ouvre nos yeux sur sa présence. Dès lors qu'on voit sa présence, dès lors qu'on réalise que nous sommes accompagnés, nos peurs tombent, nos peurs s'enfuient. Parce que le Seigneur est plus grand que nos peurs. Et parce qu'à lui, le premier et le dernier mot, comme nous l'avons chanté, Le peuple d'Israël est à cet égard un exemple pour nous dans ce récit. Ils décident de rejeter leurs idoles. Ils reconnaissent les lieux de leur défaite. Ils confessent leurs péchés. Ils jeûnent même. Le jeûne dans la Bible est un signe d'affliction, d'humiliation et même de deuil. Ça a dû prendre du temps. C'est un cheminement. Peut-être que tout ne sera pas réglé tout de suite ici. Mais je voudrais nous inviter à l'appel de l'Église persécutée à entrer dans ce cheminement. Dieu délivre et restaure son peuple. Et les Philistins qui avaient constaté un rassemblement, ils ont pensé que c'était comme pour la première fois. Ils se sont dit, ils se rassemblent à nouveau, ils vont encore nous faire la guerre. Mais on se souvient, quelques chapitres plus tôt, à Ebenezer, nous les avions vaincus. Et cette fois-ci, ils étaient sûrs de gagner. Ceux qui n'avaient pas compris, c'est que le peuple était revenu dans l'alliance. Et que cette fois-ci, le peuple n'était plus dans la superstition. La victoire est arrivée alors que les Philistins avaient encore, n'est-ce pas? 20 ans s'étaient passés. L'alliance, le coffre de l'alliance était revenu entre-temps. Mais ils l'avaient mis au garage parce que c'était un souvenir de défaite. Mais Dieu va dans nos garages, ou dans nos greniers, ou dans nos caves. Et il va visiter les lieux de nos défaites. Et il sait les lieux de tes défaites et de mes défaites. Mais ce qui est extraordinaire et encourageant dans cette histoire, c'est que là, ce n'est même pas le peuple qui va mener le combat, c'est l'Éternel lui-même qui mène le combat. Un bruit de tonnerre, des choses qui se passent, et le peuple sort, et les Philistins sont défaits. Et là, Samuel, il dit, c'est Ébénézer. Il y a Ébénézer, version 1, la défaite. Mais cette fois-là, il expérimente un Ébénézer de victoire. Dieu revient à Ébénézer. Et il dit, c'est moi, Ébénézer, le Dieu vivant, le Dieu secourable. Et là, Samuel va dire, jusqu'ici, le Seigneur nous a sauvés. Commence à regarder les lieux de tes défaites. Commence à regarder les lieux de tes défaites, ici maintenant. Et si aujourd'hui était le jour où commençait une œuvre de victoire, Dieu ne te reproche pas les défaites. Dieu ne t'en veut pas. Ce qu'il veut faire dans nos vies, ce qu'il veut faire pour l'Église persécutée, il veut aussi le faire pour nous. C'est que nous puissions expérimenter sa victoire. Victoire dans tout ce qui nous déshumanise, victoire dans tout ce que nous idolâtrons, victoire dans tous les combats secrets que nous menons, victoire dans tout ce qui nous fait honte, victoire au Seigneur de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ. Oui, malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à faire de temps en temps des bilans de notre marche, dans notre vie, de regarder en arrière sans verser dans une introspection maladive, mais chercher dans l'histoire de nos vies, dans la trame de nos vies, et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés. Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître sa grâce et sa fidélité? Seigneur, tu m'as fait passer par-ci, par-là, et je dois reconnaître que jusqu'ici, 70 ans plus tard, 45 ans plus tard, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, 100 ans plus tard, oh non, il n'y a peut-être personne ici, 93 ans plus tard, le Seigneur nous a secouru. J'aimerais conclure avec ces quelques mots de portes ouvertes, nous disent « Sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, Apprenons à revenir sans cesse à lui dans l'humilité et la repentance, de sorte à grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et pour l'Église persécutée? Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il sera notre secours à tous, encore et encore dans la vie.